Voilà, bonjour à tous. Je vous invite ce matin à poursuivre notre méditation dans le livre d'Esther et donc à ouvrir votre Bible au chapitre 3 de ce livre d'Esther que nous voulons maintenant lire ensemble. Esther, chapitre 3. Je lis dans la version du Semeur. Quelque temps après ces événements, l'empereur Xerxès éleva en dignité Aman, fils de Hamdata du pays d'Agag. Il le promut au rang de premier ministre et lui donna ainsi la prééminence sur tous les ministres de son gouvernement. Par ordre de l'empereur, tous les fonctionnaires impériaux en poste au palais devaient s'agenouiller et se prosterner sur son passage. Mais Mardochée ne s'agenouillait pas et ne se prosternait pas devant lui. Ses collègues lui demandèrent « Pourquoi désobéis-tu à l'ordre de l'empereur ?» Tous les jours, il lui disait cela. Mais Mardochée ne les écoutait pas. Finalement, ils signalèrent la chose à Aman pour voir si Mardochée s'en tiendrait à ses paroles, car il leur avait dit qu'il était juif. Quand Aman eut constaté que Mardochée ne s'agenouillait pas et ne se prosternait pas devant lui, il devint furieux. On lui avait appris à quel peuple Mardochée appartenait et il jugea trop insuffisant de porter la main sur Mardochée seulement. Il résolut donc d'exterminer tous les Juifs, compatriotes de Mardochée, qui se trouvaient dans tout l'empire de Xerxès. Le premier mois, c'est-à-dire le mois de Nissan, de la 12e année du roi du règne de Xerxès, Aman fut tiré au sort, ce qui se dit pour, en passant en revue un jour après l'autre et un mois après l'autre, le sort tomba sur le 12e mois qui est le mois d'Adar. Puis Aman alla dire à l'empereur Xerxès. Il y a, répondu parmi les peuples dans toutes les provinces de ton empire, un peuple qui est inassimilable. Leurs lois sont différentes de celles de tous les autres peuples et ils n'obéissent pas aux lois impériales. L'empereur n'a aucun intérêt à les laisser en paix. Si l'empereur le veut bien, que l'on rédige un édit ordonnant leur extermination et je pèserai 10 000 pièces d'argent que je remettrai aux fonctionnaires impériaux pour qu'ils les versent dans les caisses de l'empereur. Alors l'empereur ôta son anneau du doigt et le remit à Aman, fils de Hamdata d'Agag, l'ennemi des Juifs. Puis l'empereur dit à Aman, « Je te laisse l'argent et je te livre ce peuple. Fais-en ce que tu voudras. » Le 13e jour du premier mois, on convoqua les secrétaires impériaux et, sur l'ordre de Aman, ils écrivirent aux satrapes de l'empereur, aux gouverneurs de chaque province et aux ministres de chaque peuple. Les documents furent rédigés selon le système d'écriture des différentes provinces et dans la langue de chaque peuple. Les messages furent écrits au nom de l'empereur Xerxès et scellés du sceau impérial. Les lettres furent portées par les coureurs dans toutes les provinces de l'Empire pour ordonner de massacrer, de tuer, d'exterminer les Juifs, jeunes et vieux, enfants et femmes, en un seul jour, à savoir le 13e jour du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et de piller leurs biens. Le texte de l'édit devait être promulgué comme loi dans chaque province et porté à la connaissance de tous les peuples pour que chacun se tienne prêt pour le jour fixé. Les coureurs partirent en hâte par ordre de l'empereur. Le décret fut aussi publié dans la citadelle de Suse. L'empereur et Aman s'installèrent pour boire, tandis que dans la ville de Suse régnait la consternation. Jusque-là, la lecture de l'Écriture. Seigneur, que ta parole maintenant agisse dans nos cœurs. Amen. Avec le livre d'Esther, nous sommes plongés dans un monde où Dieu semble absent en apparence. Le nom de Dieu n'y est jamais mentionné, on n'y prie pas, on ne trouve pas de miracle extraordinaire. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu semble présent à dans chaque coïncidence, dans chaque hasard, entre guillemets, qui est relaté dans le livre. Le livre d'Esther nous apprend que dans un monde où Dieu est écarté, où le mal semble trop souvent triompher, dans ce monde-là, Dieu n'est pas absent. Dieu est là dans l'ordinaire de nos vies. Il est là dans ces tout petits détails qui apparaissent tellement insignifiants, tellement anodins, tellement peu spirituels. Mais c'est à travers ces détails de la vie quotidienne que Dieu écrit la grande histoire. C'est à travers ces détails que Dieu mène son plan de salut. Le chapitre 3 que nous venons de lire s'ouvre avec ces mots « après cela ». Après quoi ? Nous venons d'apprendre à la fin du chapitre 2 que Mardochée, le cousin de la reine Esther, a déjoué un complot contre le roi. Mardochée était vraisemblablement un haut fonctionnaire de la cour impériale et un jour, par un de ces heureux hasards, encore une fois hasard entre guillemets, un jour, il entend deux gardes qui sont très en colère. Le verset 21 nous dit qu'ils appartenaient à la garde du seuil, c'est-à-dire à la garde rapprochée du roi. Ce sont des agents de sécurité. Mais plutôt que de protéger le roi, ils cherchent à porter la main sur le roi. Et que fait Mardochée ? Il parle de ce qu'il a entendu à la reine Esther, qui elle-même en parle au roi, et qui lui-même fait une brève enquête, au terme de laquelle il va faire exécuter les deux comploteurs. Et puis le verset 23 du chapitre 2 tout simplement nous rapporte que l'affaire a été consignée dans les annales de la cour. Tout cela semble assez banal, assez ordinaire, même s'il y a une exécution. Mais nous n'avons pas le sentiment que Dieu est présent dans cette histoire. Il n'en est pas fait mention. Mardochée n'a pas eu une grande révélation qui lui aurait fait connaître l'existence de ce complot. Il n'a pas non plus eu d'ange qui serait venu lui dire ce qu'il devait faire. Il a simplement effectué son travail de haut fonctionnaire avec une conscience professionnelle affinée qui lui a fait dénoncer ce qu'il avait entendu. Tout cela a l'air tellement ordinaire, tellement peu spirituel. Il n'y a rien d'éblouissant. Il n'y a pas de miracle. Et pourtant, dans ces petits événements que je viens de vous signaler, nous voyons que Dieu est présent. C'est Dieu qui a permis ces événements pour plus tard les utiliser afin de conduire son projet de salut, son projet de sauvetage face à la menace d'extermination du peuple juif. Ce n'est pas par hasard que Mardochée a entendu ces bruits de couloir. Ce n'est pas par hasard que tout cela a été consigné dans les annales. Et ce n'est pas par hasard que plus tard, Dieu va permettre au roi d'avoir une insomnie au cours de laquelle il va se faire lire ces fameuses annales et en particulier l'histoire de ce complot qui a été déjoué. Dieu utilise ces petits éléments de la vie quotidienne pour un jour renverser le cours de l'histoire et permettre que Mardochée devienne l'instrument de salut, l'instrument de la délivrance. Je ne sais pas ce qu'il en est dans votre vie. Souvent, nous attendons Dieu dans l'extraordinaire, dans ce qui va frapper les regards, dans des miracles. Nous voulons voir du miraculeux. Et pourtant, le plus souvent, Dieu agit dans les coulisses, dans l'ombre, dans l'ordinaire de nos vies, dans des choses qui semblent tellement peu spirituelles. Mais précisément, c'est là que Dieu se trouve, dans le quotidien de notre vie. Au verset 1, nous lisons « Après cela, Donc après ce complot déjoué, le roi Xerxès s'éleva en dignité. Et qu'attendez-vous là? Nous attendons d'entendre le nom de Mardochée. Il vient de déjouer un complot. Il serait normal qu'il soit élevé en dignité, qu'il soit promu pour son travail bien fait. Eh bien non. Le texte écrit que le roi éleva en dignité Haman, fils de Hamdata, du pays d'Agag. Haman est promu au rang de premier ministre. Cette promotion se passe 4 ans après le complot, d'après le verset 7. On a le sentiment que Mardochée a été complètement oublié. Comment Mardochée réagit au fait que rien n'a été reconnu, aucun mérite, aucune promotion? On ne le sait pas, mais on est surpris à ce point de la lecture d'entendre tout à coup que cet Haman, qui vient de nulle part, qui est lui promu à la tête du royaume, en tant que personnage numéro 2 du royaume. Et est-ce que ce n'est pas aussi comme cela parfois dans nos vies? Nous nous démenons, nous nous consacrons à notre travail de manière très honorable. Et tout cela ne semble pas pris en compte. C'est d'autres qui reçoivent les honneurs, d'autres qui reçoivent les promotions, d'autres qui parfois ont su mieux se vendre, peut-être mieux passer sur le corps des autres pour s'élever dans la hiérarchie. Et où se trouve Dieu dans tout cela? Mardochée pourrait se croire oublié de Dieu, mais la suite de l'histoire nous apprend qu'il n'en est rien. Et parfois nous pouvons nous croire oubliés de Dieu, ne comprenant pas le sens de l'histoire, de notre histoire. Mais Dieu va utiliser même des moments d'injustice pour sa gloire, pour en faire sortir un bien. Dieu sait utiliser le mal à ses propres fins pour le retourner et en faire sortir quelque chose qui va être bon et qui va l'honorer et le glorifier. C'est quand tout semble perdu que Dieu agit et qu'il intervient. Dieu n'oublie jamais les siens. On peut se demander qui est cet Haman qui surgit là dans l'histoire, qui vient de nulle part, dont on ne connaît pas les origines, le pédigré, et qui se retrouve subitement numéro 2 de l'Empire. Le verset 1 nous dit qu'il est fils de Hamdata, du pays d'Agag. Haman porte un nom perse, sa famille porte un nom perse, et pourtant, il n'est pas perse d'origine. C'est un immigré qui s'est bien assimilé depuis longtemps aux autres peuples. Mais l'auteur du livre d'Esther tient à préciser ses vraies origines. Il est un descendant d'Agag, le roi des Amalécites, roi à l'époque de Saül. Or, les Amalécites, peut-être vous en souvenez-vous, peut-être non, mais les Amalécites ont été le premier peuple, bien avant l'époque de Saül, qui a cherché à détruire le peuple de Dieu, après qu'il ait été délivré d'Égypte. Et Dieu avait promis qu'il allait combattre les Amalécites de génération en génération. Arrive un temps où c'est à Saül de mener ce combat contre les Amalécites. Et Saül désobéit. Il épargne la vie d'Agag. Et cette désobéissance va lui coûter le trône. Eh bien, il nous est dit que Haman est un descendant de cet Agag, ennemi du peuple juif. Et l'autre personnage qui nous est présenté, c'est Mardochée. Qui est-il, lui? Chapitre 2, verset 5, nous avons appris qu'il était fils de Kish, de la tribu de Benjamin. Or, Kish est le père du roi Saül. Et Mardochée est donc un descendant du roi Saül. Qu'est-ce que tout cela nous dit? Cela nous dit que la bataille qui a commencé contre le peuple de Dieu des générations avant, qui aurait dû se terminer à l'époque de Saül, mais qui ne s'est pas terminée, est en train de se poursuivre dans notre récit avec nos deux personnages clés, Haman et Mardoché. C'est une bataille spirituelle. Les deux protagonistes ne sont que les instruments d'un dessein bien plus grand. C'est le combat des forces du mal qui cherchent à anéantir le peuple de Dieu. Haman est en quelque sorte le représentant de ces forces du mal. Il me semble que c'est cela qui est suggéré dans le texte, quand l'auteur prend le soin de nous préciser les origines à la fois de Haman et de Mardoché. La bataille n'est pas terminée contre le peuple de Dieu. Il y a toujours des puissances qui s'opposent au projet que Dieu veut mener dans le monde avec son Église, aujourd'hui encore. Mais l'Écriture nous annonce que la victoire appartient à Dieu. Si nous poursuivons la lecture, nous voyons qu'au verset 2, il est dit « Par ordre de l'empereur, tous les fonctionnaires impériaux en poste au palais devaient s'agenouiller et se prosterner sur son passage. » Qu'est-ce que cela évoque pour vous ? Haman, numéro 2 de l'Empire. Dans une culture où on a l'habitude du respect, de se prosterner devant ceux qui sont supérieurs. Il n'y avait rien de plus naturel que de se prosterner devant le Premier ministre. Tout le monde le faisait. Même les Juifs pouvaient le faire, alors qu'il était interdit d'idolâtrer quelqu'un. Mais nous avons quelques passages de l'Ancien Testament où nous voyons des Juifs se prosterner devant le roi d'Israël. Ça fait juste partie de la culture. En marque du respect, en se prosternant devant celui qui est plus élevé. Alors pourquoi le roi doit-il commander que l'on se prosterne devant le Premier ministre ? Est-ce que ce n'est pas révélateur du manque de popularité que devait avoir Haman ? On peut imaginer qu'il était un fonctionnaire peut-être du même rang de Mardoché. La Bible ne nous le dit pas précisément. Mais quelqu'un qui sans doute a tout fait pour réussir à être promu. Quelqu'un qui sans doute n'a eu aucun scrupule à passer sur les autres pour tenter de s'élever à la plus haute des positions. Et c'est ce qui peut expliquer qu'il est si peu aimé et qu'on doit commander même le respect qui aurait dû être naturel. Le roi commande donc que tout le monde se prosterne devant lui. Et pourtant il en est un qui résiste. Le verset 2 nous dit « Mardoché ne s'agenouillait pas et ne se prosternait pas devant lui. » Ses collègues sont intrigués par ce comportement de résistant et lui disent « Mais pourquoi désobéis-tu à l'ordre du roi ?» Et comme Mardoché ne répond pas, ils insistent, ils reviennent à charge, jusqu'à ce que Mardoché leur révèle qu'il est juif. Et que c'est parce qu'il est juif, parce qu'il appartient à un peuple qui honore Dieu, qu'il ne peut pas se prosterner devant le roi. Et on comprend que ce n'est pas par manque de respect qu'il ne veut pas se prosterner, qu'il y a quelque chose d'autre qui est lié à sa foi. À cause de sa foi, il ne peut pas faire ce qui est demandé. Ses collègues continuent à le tester, ils veulent voir si sa foi tiendra vraiment bon. Verset 4, ils signalèrent la chose à Haman pour voir si Mardoché s'en tiendrait à ses paroles, car il leur avait dit qu'il était juif. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on a pu voir dimanche dernier ? Mardoché avait lourdement insisté auprès de sa cousine Esther pour qu'elle ne dévoile pas son identité juive. Et lui-même avait eu ses origines jusque-là. Et je ne crois pas que c'est parce qu'il aurait été faible dans sa foi qu'il se serait attiédi, qu'il n'aurait pas eu le courage d'afficher ses convictions. Je ne crois pas non plus que c'est parce qu'il aurait craint l'opposition, puisque maintenant il n'a aucune crainte à pratiquer un geste de résistance. La manière dont Mardochée nous est présenté dans le livre d'Esther est une manière très honorable. Mardochée nous est présenté comme un homme de foi, un homme avec une piété profonde, quelqu'un qui met sa foi en pratique en prenant soin des autres. Il s'occupe de sa cousine Esther, qui est une pauvre petite orpheline. Quelqu'un aussi qui est prêt à s'engager pour les intérêts du royaume, en assumant des responsabilités professionnelles très importantes au sein d'un empire qui ne reconnaît pas Dieu. Et jusque-là, au sein d'un empire où il était délicat de s'afficher publiquement, Mardochée a agi en homme avisé, prudent. Et peut-être est-ce pour cela qu'il a pu monter et gravir les échelons jusqu'à devenir un haut fonctionnaire de la cour. Mais arrive maintenant un moment où il est sommé de se positionner. S'il ne le fait pas, il va entrer dans la compromission. Se courber devant Haman, c'est plus que du respect et de la politesse. C'est s'incliner devant les forces du mal, les forces de ce monde qui s'opposent à Dieu et à son peuple. Et si Mardochée refuse de s'incliner, ce n'est pas parce qu'il aurait été frustré de n'avoir pas été promu à l'époque, c'est qu'il refuse de s'incliner, de se soumettre à la puissance d'opposition au peuple de Dieu. À coup sûr, Mardochée connaît les origines de Haman. Il sait ce qu'il représente. Et là, il refuse de pactiser avec le mal. Il y a eu un temps où la sagesse lui avait commandé de se fondre dans le monde ambiant. Il avait gardé des valeurs fortes, mais il était resté discret. Arrive maintenant un moment où il est sommé de se positionner, où il ne peut plus continuer à faire comme tout le monde, où il ne peut pas faire comme les autres et s'incliner devant Haman. Cela deviendrait une compromission qui est inacceptable. Et alors il prend tous les risques. Il sait que ça peut lui coûter son poste de travail. Il sait qu'on peut même s'en prendre à son intégrité physique. Mais il refuse de se prosterner. Il y a une ligne rouge qu'il ne veut pas franchir. Mardochée entre dans la résistance et il nous enseigne la voie de la résistance. Parce que nous aussi, nous sommes guettés dans notre quotidien, dans un monde qui rejette Dieu. Nous sommes tentés de faire des compromis qui deviennent des compromissions. Où est la ligne rouge pour nous aujourd'hui? Où placez-vous cette ligne dans votre propre vie? Je pense que nous devons apprendre à résister à toutes les formes d'injustice. Et la corruption ou le travail au noir participent à l'injustice sociale. Nous devons aussi, je pense, refuser tout accord avec quelque puissant que ce soit ou avec quelque maître que ce soit, tout accord qui nous mettrait en position délicate par rapport à nos valeurs chrétiennes. J'étais surpris l'autre jour, alors que je cherchais à connaître les conditions d'éligibilité au programme de Google pour les associations sans but lucratif. Ils ont une offre très alléchante, gratuite, qui facilite la vie des associations. Mais lorsque l'on veut y souscrire, Google nous demande au préalable de certifier ceci, et je cite, « Mon organisation ne pratique aucune discrimination en termes d'emploi et d'embauche, que ce soit sur la base de l'orientation ou de l'identité sexuelle. » Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que Google demande aux associations d'accepter l'homosexualité, le transsexualisme, comme une pratique normale. Mais en quoi cela concerne-t-il Google? Pourquoi ne demande-t-il pas, par exemple, aux associations de ne pas pratiquer de discrimination religieuse? Est-ce qu'il n'y a pas dans cette demande une forme insidieuse du mal qui cherche à arranger tout le monde de son côté? Et que va-t-il se passer pour ceux qui refusent de s'incliner, de se prosterner? J'essayais de réfléchir s'il était possible de jouer tout en finesse, de rester intègre tout en signant. Mais j'ai eu le sentiment qu'on franchirait là une ligne rouge, justement. Et pour moi, c'était la ligne rouge à ne pas franchir. Mardoché résiste. Il refuse de se prosterner. Et Aman se met en colère. Le verset 5 nous dit qu'il devint furieux. Ce n'est pas une simple colère passagère. Il a véritablement un vrai accès de rage. Une grande violence, il est en furie. Comment un homme peut-il lui résister à lui? Aman est le type même du personnage orgueilleux, fier, arrogant, rempli d'amour-propre. Rien ne doit lui être refusé. Il doit toujours avoir raison. Les choses doivent toujours se passer comme il l'entend. Et cette violente rage intérieure découle d'un orgueil qui a été blessé et qui bientôt va se transformer en haine, en désir de vengeance. Et l'orgueil conduit toujours, in fine, à la destruction. On lit ainsi au verset 6, « On avait appris à Aman à quel peuple Mardoché appartenait. Et il jugea trop insuffisant de porter la main sur Mardoché seulement. Il résolut donc d'exterminer tous les Juifs qui se trouvaient dans l'Empire. » Voilà un homme qui n'a plus aucune limite, qui est blessé dans son amour-propre et qui veut faire expier le coupable, mais non seulement le coupable, tout le peuple de ce coupable. Aman devient à ce moment-là une forme d'incarnation du mal, le mal qui n'a plus de limites, qui n'aspire qu'à une chose, à détruire le bien, à détruire l'œuvre de Dieu, à détruire ce qui appartient à notre Seigneur. L'orgueil, dans sa forme ultime, finit toujours par faire le jeu de Satan. Et l'orgueil est dénoncé comme l'essence même du péché dans l'Écriture. L'orgueilleux est quelqu'un qui ne pense pas aux autres, mais qui ramène toujours tout à lui-même. Il n'y a que lui qui compte. Aman veut que tout le monde l'approuve, que tout le monde l'apprécie, que rien ne lui résiste. Alors je ne sais pas si, pendant que je vous parle, vous êtes en train de penser à certaines personnes de votre entourage, des gens qui sont orgueilleux, mais est-ce que nous ne sommes pas tous guettés par l'orgueil? Chaque fois que l'on se croit meilleur qu'un autre, chaque fois, l'orgueil est là. Et je crois que la figure d'Aman nous sert d'avertissement. Si nous laissons de la place à l'orgueil, l'orgueil va toujours finir par nous conduire à faire le jeu de l'adversaire. Et l'orgueil va toujours nous mener vers la destruction. La suite de cette histoire nous apprend qu'Aman, homme de pouvoir, homme qui ne veut laisser le pouvoir à personne d'autre, se laisse, ironie du sort, se laisse guider par le pouvoir du hasard. Pour mettre son plan d'extermination à exécution, il se fie au destin. Il tire le sort. Il passe chaque jour de l'année en revue jusqu'à ce qu'il tombe sur le jour que le sort lui indiquera comme devant être le jour de l'extermination des Juifs. Et là, ironie aussi. Ce jour tombe sur un des derniers de l'année, 12 mois après. Le temps de Haman n'est pas le temps de Dieu. Ce qu'il croit être de l'ordre du hasard n'est rien d'autre que la providence divine qui laisse un répit de 12 mois à son peuple avant que le projet soit mis à exécution. Voyez, malgré les apparences, même dans une situation où ce projet d'extermination semble être signé la perte de ce peuple, malgré les apparences où le mal semble triompher, Dieu reste aux commandes. Et Dieu est même capable de diriger les hasards. Il est au contrôle. Haman s'en va trouver le roi Xerxès. Il lui raconte un mélange de vérité et de contre-vérité pour laisser entendre que le peuple juif suit d'autres lois que celles du royaume, ce qui était vrai dans un sens, mais il laisse entendre que cela peut être dangereux pour la sécurité du royaume. Il dit au roi que les juifs sont un peuple inassimilable et donc qu'ils peuvent représenter un danger pour la sécurité de l'État. Le roi n'a aucun intérêt à les laisser en paix, dit-il. Et voilà comment il laisse entendre que ce peuple pacifique pourrait être dangereux pour la stabilité de l'État. Et ce même scénario a été rejoué tout au long de l'histoire, où l'on voit combien de fois la persécution a eu lieu parce que les chrétiens ont été considérés comme des gens dangereux, suivant un autre maître, un autre seigneur, qu'on estimait qu'ils pouvaient déstabiliser le pays par leurs autres pratiques. Xerxès ne connaît pas les Juifs, même si la reine est juive, et il a peur d'eux avec ce qu'on lui dit. Et nos propres autorités ont parfois peur de nous simplement parce qu'elles ne nous connaissent pas. Et je pense qu'il est de notre devoir de nous faire connaître des autorités, de faire connaître que nous sommes pacifiques, que nous cherchons le bien de la société. Parce que simplement, cette connaissance-là peut éviter un certain nombre de malentendus. Mais il arrive aussi des moments où les gouvernements sont guidés par des idéologies et que même si nous avons cherché à entretenir de bons rapports avec les autorités, nous devons nous écarter d'une idéologie qui serait contraire à la parole de Dieu. Et à partir de ce moment-là, nous sommes considérés comme dangereux. Et là, nous devons assumer de suivre le Christ, assumer le fait que suivre le Christ peut coûter quelque chose à certains moments. Il est décidé que les Juifs soient exterminés la veille de Pâques. C'est encore un trait d'ironie que l'on trouve dans le texte. Pâques, n'est-ce pas la fête de la libération du peuple juif quand il est sorti de l'esclavage? Les Juifs devaient s'apprêter à fêter la libération. Le plan d'extermination est décidé un jour avant. Comment se fait-il que Dieu permette cela? Où est Dieu dans ce moment précis? Dieu a-t-il oublié son peuple? J'ai dit, c'est un trait d'ironie parce que nous le verrons dans les dimanches qui vont venir. Le projet d'extermination n'aura pas lieu comme il était prévu. Dieu va retourner l'histoire. Et un jour, il a retourné aussi l'histoire. Et nous le fêtons avec notre propre Pâques. Christ était cloué sur la croix. Tout semblait perdu. On pouvait avoir l'impression que les forces du mal avaient triomphé. Et pourtant, au dernier moment, Christ est sorti de la mort. La puissance de Dieu a agi. Et Dieu a triomphé des forces adverses. Dieu ne va jamais se laisser guider ou se laisser dominer par d'autres forces. Il est le Dieu vainqueur, le Dieu de la vie, le Dieu de la résurrection, celui qui va nous permettre de tenir ferme, même dans l'épreuve, celui qui va remporter la victoire décisive et qui va nous permettre un jour d'être réunis avec lui pour fêter avec lui. Comme on va le faire maintenant, en prenant la scène ensemble, nous aurons l'occasion de fêter la victoire du Christ à la croix. Que le Seigneur nous bénisse chacun.